Fréquence Mistral.
Et salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Vous le savez, ici même dans les studios de Fréquence Mistral Marseille, on a le plaisir de voir passer toute la culture, mais aussi ceux qui font vivre notre territoire et ceux qui font vivre notre ville et qui animent nos cœurs. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir l'association UP, une association qui a à cœur d'amener l'humour là où on en a le plus besoin, souvent dans les hôpitaux, bientôt ailleurs. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sa présidente, Maya Bouakli, et l'humoriste Merwan Sali, qui est le membre numéro un de cette association, le bénévole star, je dirais. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Bonjour Yacine, merci beaucoup.
C'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. Maya, puisque tu es clairement l'élément sérieux de cette association, est-ce que tu peux nous présenter avec tes mots cette association UP, expliquer quelles sont les missions de UP?
Eh bien, bonjour à tous, merci encore. Du coup, UP, humour d'utilité publique, ça dit un peu son nom. L'objectif, c'est d'utiliser l'humour comme un outil culturel, comme un outil de résilience aussi, et l'amener là où il est le plus nécessaire. Donc, on donne des cours de stand-up pour faire ça, dans des structures sociales, médicales, avec des publics fragilisés. Mmh. Et voilà, on a monté ça avec Merwan. C'est en fait la rencontre de nos deux univers, un petit peu, cette association, puisque moi, j'étais dans l'humanitaire. J'ai travaillé pour les Nations Unies pendant 10 ans en Afrique uniquement. Mm-hmm. Donc,
Et moi, j'étais malade.
Ah oui, beau parcours de l'été. Bravo Merwan pour ton parcours de malade.
Merci.
C'est pas aussi classe que les Nations Unies, on va pas se mentir. Mais...
Timon, des années.
Lui, ton entraînement. Non, donc oui.
Donc voilà, et du coup après je suis rentrée sur Marseille, et en fait c'est la rencontre avec Merwan qui a un petit peu fait son chemin, on a commencé à travailler ensemble sur sa carrière, sur l'humour et tout ça, et en fait on s'est dit pourquoi pas allier les deux en fait, oui. Le côté impact social moi qui m'intéressait, et lui l'humour vraiment en tant que stand-upper.
Yeah. Et objet de résilience également, puisque...
Effectivement, de son parcours, ouais.
En gros, moi aussi, j'ai commencé l'humour, comme on disait en rigolant, parce que j'étais malade aussi. Et c'est ce que je dis et ce que je fais sur scène. Et Maya et moi, on croit dur comme fer que l'humour, ça permet de dédramatiser des situations difficiles, de prendre du recul sur ce qui nous est arrivé, et même de prendre du recul sur l'épreuve et de raconter et de se réapproprier aussi son histoire. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'on a monté l'assaut ensemble.
Ouais, parce que, alors pour préciser, parce que moi j'ai eu la chance de te voir sur scène, Merwan, tu as eu un lymphome.
J'ai une leucémie aiguë lymphoblastique.
Voilà, le nom est toujours compliqué. Donc c'est une leucémie, donc c'est pas une petite maladie, c'est quand même quelque chose d'important à 17 ans, et tu as passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, mais pourtant tu en as fait aujourd'hui un objet de rire, puisque tu viens parler de cette maladie, tu viens rire avec et avec le public, puisque les gens rigolent beaucoup sur ton passage à l'hôpital, ce qui est surprenant. Et donc aujourd'hui, l'objectif avec cette association pour vous, c'est de transmettre cette capacité à rire de l'épreuve aux gens, aux jeunes.
Qui la vivent en ce moment.
Exactement. Ouais, c'est déjà la mission est magnifique, félicitations.
Merci.
Et qu'est-ce que vous constatez? Parce que moi, je sais que je suis un petit peu au travers des réseaux. J'ai vu ce groupe de jeunes qui s'est monté à la Timone, si je ne me trompe pas.
Alors, c'est avec Sourire à la vie. Donc, ils ne sont pas à la Timone au moment T. Ils sont au Château des Sourires, est à Sainte-Marthe, à Marseille. Et ils étaient une quinzaine dans le groupe. Et en fait, ils ont suivi un programme qui s'appelle Déclic Stand-Up,
d'accord,
qui dure 3 mois avec 8 ateliers. À chaque fois, on les voit 2 heures d'atelier. Mmh. Donc, c'est des ateliers créatifs. On écrit des blagues. On a appris les bases du stand-up. On leur apprend aussi l'expression scénique. Et puis, en fait, c'est surtout des moments de lâcher prise où il y a une libération de la parole entre nous. Je pense que le fait que Merwan, il ait connu cette maladie, et puis cette association aussi, peut-être t'en parlera, ça les a rendus très proches tout de suite. Mmh. On a un bon noyau qui s'est créé assez rapidement et ils se lâchent, ils sont hyper... En fait, ils ont été assez rapidement dans la vibe un peu qu'on voulait amener. Mmh. On n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour aller les chercher sur le stand-up. Ils connaissent cet art, c'est accessible pour eux parce que c'est leur langage. Et ils le voient beaucoup sur les réseaux sociaux. Parler d'eux, c'est pas difficile pour eux, en fait.
C'est surtout là où on a été surpris, je pense aussi, c'est le fait qu'ils puissent rigoler de leur maladie aussi facilement. Enfin, En réalité, j'ai déjà été surpris, mais je l'étais moyennement, étant donné que, ben, comme je l'ai vécu, je voyais très bien que nous, enfin les malades, on a toujours rigolé de ça. Et c'est plus les gens ou les parents.
Ouais,
ou
les gens, qui... parce que j'allais te poser la question sur les parents, justement.
Ouais, exactement. Ouais. Qui rigolaient, qui rigolent pas trop de ça et qui ont du mal à prendre du recul avec ça. Alors que les enfants, en réalité, ils demandent que ça, pour certains. Et du coup, ouais, nous, on a été contents de pouvoir créer ce truc. Et si tu voulais poser la question des parents, ouais, les. Ben, on a
des bons retours des parents, en fait, parce que bon, il s'agit d'enfants qui sont, pour la plupart, ils ont moins de 18, donc ils ont quand même leurs parents qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait et tout ça, et ils se parlent beaucoup. Et en fait, les parents, ils nous ont dit, ben, en fait, on a appris des choses sur leur parcours médical grâce au ton de l'humour. Ils nous ont dit plus de choses qu'ils ne nous avaient pas encore dit, qu'ils n'avaient pas osé, parce que voilà, il y a des sujets tabous à l'hôpital, etc. Et ça, pour
des
nous, c'était...
En fait.
Ouais, voilà, et ça, pour nous, c'était vraiment...
Même de parler des émotions, parce qu'un adolescent, malade ou pas, d'ailleurs, il parle rarement de ses émotions à ses parents. Ouais, donc, en fait, même pour laisser l'émotion sortir, j'imagine que ça peut ouvrir une porte.
Ouais, et en plus, je trouve que, justement, ce que tu disais sur la perception des autres, en fait, donc qui sont pas malades, c'est assez... c'est partagé par tout le monde. Tout le monde, enfin, tous les enfants, ils nous ont dit, bah oui, il y a toujours des maladresses, il y a des gens qui n'ont pas les bons mots, parce qu'on n'est pas outillés. Quand on est le proche de quelqu'un, pour parler vraiment de la maladie et être à l'aise avec le sujet. On marche sur des œufs et puis du coup, on commet des erreurs. On dit des trucs, bon, en fait, merde, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Bon, salut, ça va? C'est un exemple, là, mais tu rentres dans une chambre.
J'ai bien sûr Berouane qui raconte sur scène que l'infirmière lui a dit « Ah, tu as un cancer et ton signe astrologique, c'est cancer
!» Voilà, c'est ça, exemple parfait.
Maladresse sympathique, on va pas se mentir.
Meilleure blague au monde.
Ça fait après un super sketch qui a pas besoin de
mais tu vois, travailler. Pour ce truc, moi, j'étais mort de rire. Et mon frère qui était à côté de moi, ça l'a pas du tout fait rire.
Ah oui.
Tu vois, parce que ben moi j'avais plus de recul sur ce que sur ce qui m'arrivait, alors que mon frère avait moins de recul sur ce que tu vois.
Souvent on a plus de recul sur soi-même et sur l'épreuve qu'on traverse que les proches toujours.
Les proches
bien sûr, mais c'est logique.
Mais
justement, je voulais demander, ça rentre complètement en lien avec ce que vous étiez en train de dire. Mais qu'est-ce qu'on arrive à dire avec l'humour qu'on n'arrive pas à dire lorsqu'on est sérieux? Qu'est-ce qu'on peut exprimer qu'on exprime rarement sérieusement?
Tout,
des émotions, même des histoires qui sont un peu folles aussi à l'hôpital qui nous arrivent, ça leur arrive. Enfin, je prends l'exemple de Faïza, qui raconte aussi sa maladie, où elle est née avec le cœur à droite, et elle fait des blagues sur ça aussi, mais c'est hyper marrant, et ça nous permet de comprendre aussi ce que vit cette jeune femme, tu vois. Et elle nous transmet en vérité. Elle nous transmet aussi beaucoup de force à travers son sketch, où ça nous donne de la force à nous qui sommes pas malades. Je trouve que moi, ça m'a renforcé dans ce truc, tu vois.
Et aussi, ça leur permet de se réapproprier cette histoire-là qui, en fait, est pas facile sur le papier. Ils savent bien que c'est dur ce qu'ils vivent et que tout le monde les regarde comme ça aussi, comme genre
avec un regard un peu de pitié.
Voilà, d'inquiétude. Donc ça leur permet de se redire, de se réécrire un peu. Et moi, je le prends avec humour, et donc ça vous soulage aussi, vous, en face. Donc vous allez commettre moins de maladresses, puisqu'on va on va rire, en fait. On va juste faire des blagues dessus ensemble.
Et même le fait de faire des blagues sur les maladresses, peut-être ça permet d'anticiper les maladresses aussi pour les gens autour, de ne pas parler du signe astrologique, par exemple.
Non, mais c'est ça, ils peuvent prévenir ce genre de trucs et peut-être mettre plus à l'aise les gens autour.
Et après...
Y compris leurs camarades aussi à l'école et tout ça, parce qu'à l'école, c'est pas facile aussi pour les autres de comprendre ce qui se passe et de bien en parler.
Pourquoi ils sont pas là 2 jours par semaine, etc.
Voilà, et du coup, je pense que l'humour, ça devient une arme pour, à tout point de vue pour eux.
Après, il faut... Nous, on n'oblige pas les enfants à parler de leur maladie. C'est aussi ça, c'est hyper important. Nous, quand on donne des cours de stand-up, il y a des enfants qui parlent pas de leur maladie.
Ils sont pas que leur maladie.
En fait, il faut pas juste les mettre dans des cases malades. C'est aussi des enfants,
des ados,
qui font du foot. Enfin, pour certains qui sont plus malades. Donc, du coup, aussi, qui viennent de guérir, etc., qui ont envie de faire du sport ou qui ont telle passion, etc. Donc, ils parlent de ce qu'ils veulent. Nous, on n'oblige pas à les faire parler de la maladie. Souvent, ils parlent de leur maladie parce qu'au final, c'est leur vie. C'est leur vie d'enfant, malheureusement. Donc, ils racontent leur vie, c'est un peu ça le stand-up. Donc, leur vie, c'est quoi ? C'est la maladie. Mais parfois, il y a des enfants qui ne parlent pas de leur maladie, et ça nous va aussi, et c'est très bien, et c'est très drôle aussi. Et
ouais, ils parlent de leur fratrie, de leur famille, exactement, des études, des choix un peu que tu dois faire quand t'es ado.
C'est un stand-up classique, quoi, voilà. Ils parlent de leur vie, quoi.
Exactement. Donc, je voulais souligner aussi ce truc, c'est que c'est pas que des enfants malades, et c'est pour ça aussi que sur l'affiche... déclic parce que c'est le 31 janvier mais sur l'affiche etc on n'a pas mis l'association d'enfants malades ou je ne sais quoi, on a mis des adolescents qui montent sur scène,
ouais.
Et nous en vrai c'est ce qu'on a envie de souligner aussi, c'est des adolescents lambda et ils viennent vous raconter leur vie et leur vie c'est pour certains la maladie, pour d'autres autre chose, mais voilà, on n'a pas voulu souligner ce truc en disant
ouais, c'est ça reste des adolescents avec leur vie et leurs histoires qui sont un peu plus différentes, mais qui restent des histoires classiques en vérité.
Mm. Exactement. Et je trouve ça chouette, c'est un comédie club d'ados, on n'en voit pas beaucoup, donc ouais. du coup, c'est... Je pense que ça va être aussi plein d'émotions.
Les premières scènes en plus en public, c'est toujours quelque chose.
Ah, oui.
Quel que soit le niveau, n'importe quel que soit l'âge, c'est toujours un moment où on sent les cœurs palpiter de loin. Donc c'est...
Nous, je pense qu'on va les ramasser à la petite cuillère avant, après.
En tout cas, le projet est génial. Moi, je voulais voir parce que j'ai regardé quand même votre présentation et j'ai vu que vous aviez mis l'autodérision comme outil pour limiter, éviter le harcèlement scolaire. Et ça, ça m'a forcément touché puisque j'ai été comme tout le monde, un collégien, un lycéen. Et c'est vrai que nous, à mon époque, en tout cas nous, c'était très porté sur la vanne, sur le fait de se moquer les uns des autres. Et bien sûr, il y en a avec qui ça a dérapé. Je pense qu'il y avait du harcèlement, etc. Mais nous, moi, je me rappelle avec mes potes, c'était constamment c'était constamment se moquer de soi et se moquer de l'autre. Et je voulais savoir comment on forme quelqu'un à l'autodérision. Parce que Merwan, typiquement, on sait qu'il est rodé à ça du fait de son parcours. Mais comment on forme quelqu'un à se moquer de soi-même, à réussir à rire de soi ?
Vas-y.
Je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas d'apprentissage à l'autodérision. Donc, on n'est pas égaux dans la matière quand on les voit en cours. Il y en a qui l'ont naturellement ou qui l'ont bien intégré parce qu'ils se sont déjà fait pas mal vanner. Et bien, il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile de parler d'eux et de rire d'eux. Mmh. Donc, je pense que ça, Méron, il le fait dès le début un peu dans le groupe, en fait. C'est qu'on peut se moquer et tout ça dans la bienveillance. Le cadre et les valeurs, c'est vraiment ça. On peut se moquer, mais on est tous ensemble. Il n'y a personne qu'on laisse de côté. Mmh. Et surtout, il faut qu'on apprenne à se moquer de nous-mêmes avant d'aller se moquer des autres. Mmh. C'est un peu, si on ne fait pas ça, ça ne nous donne pas l'autorisation, entre guillemets, d'aller vanner l'autre, en fait, parce que c'est trop facile.
C'est là qu'on devient harceleur, en vérité. C'est quand on se moque plus des autres que de soi-même.
C'est ça, mais le stand-up, dès que tu apprends à écrire tes blagues, c'est aussi sur toi avant tout le monde. Hein.
Parce que l'image que tu renvoies au monde, ouais.
Voilà. Ouais, je pense surtout quand on devient harceleur, quand on s'attaque à une personne trop longtemps. Mmh. C'est ça aussi. C'est que je fais que des blagues sur cette personne et je ne le lâche pas là-dessus, etc. Une vanne, ça n'a jamais tué personne, je pense. Une blague, ça n'a jamais tué personne. Mais par contre, 20 blagues sur la même personne tous les jours.
Ouais, et en groupe, en plus.
Et en groupe. Alors que l'autre personne veut mettre ses limites et dit non, mais en fait, moi, ça ne me fait pas rire. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre aussi dans la vanne et dans l'autodérision, c'est que chacun pose ses limites. Et il faut accepter les limites de l'autre. Je pense que c'est ça qui est hyper important et c'est aussi ça qu'on leur apprend. En vrai, en l'autodérision, c'est de connaître leurs limites. Parce que nous, on ne va pas aller se moquer d'eux déjà sur le physique ou c'est des trucs comme ça. On ne se moque pas d'eux là-dessus si c'est leur limite. Et il faut comprendre la limite de l'autre avant de pouvoir faire des blagues et avant de lui dire fais de l'autodérision. Non, tu veux faire de l'autodérision sur quoi ? C'est quoi que toi te fait rire chez toi ? Si c'est le fait que tu sois timide. Parce que souvent, quand on pense autodérision, on pense si je les aurais décollés, exemple, comme moi, je fais des blagues, etc. Non, mais il n'y a pas que le physique, il y a aussi notre tempérament. Si tu es timide, introverti, peu importe ce que tu es, tu peux faire des blagues là-dessus. Et c'est aussi de l'autodérision. Moi, je suis quelqu'un de timide, je ne parle jamais, donc on m'oublie. Enfin, il y a plein de blagues à faire aussi sur ça. Et donc voilà, l'autodérision, c'est connoté très...
clash physique.
Ouais, clash physique, etc. Alors que pas du tout, l'autodérision, c'est beaucoup plus ouvert que ça.
Oui.
Donc c'est ça aussi qu'il faut, je pense, aussi souligner sur ce truc
et sur les limites à respecter et tout ça, on peut se tromper aussi, ça, on apprend aussi ensemble les limites de l'autre, et on leur apprend aussi à ne pas hésiter à s'excuser, ok je suis allé trop loin, voilà, je suis désolée, celle-là, elle n'est pas passée, comme les stand-uppers vont faire, genre, celle-là, elle n'est pas passée, ouais. Désolé, ils s'excusent un peu en public, bah, c'est la même chose entre nous, ou alors je l'ai faite trop tôt, parce qu'une blague, il y a aussi un timing.
Ouais.
Donc on leur apprend aussi à faire ça entre eux, en interaction, etc. Hop, si c'était trop tôt, ou si, voilà, je suis allée trop loin, désolé.
Et justement, vous avez vu un changement dans la dynamique du groupe entre ces jeunes depuis qu'ils ont commencé les ateliers avec vous ?
Bah avec nous, oui, on a vu, bah ils sont beaucoup plus lâchés. Au début, par exemple, ils ne parlaient pas de leur maladie. Par exemple, ouais, au début, il n'y a personne qui parlait de sa maladie. Et à la fin, ils voulaient tous faire des blagues là-dessus. Donc, ça, on le voit, qu'ils se lâchent, qu'ils nous font confiance, qu'ils comprennent ce qu'on fait, le pourquoi. Moi, ce que j'aimais trop, par exemple, avec Camille, c'est qu'elle écrivait les blagues avec sa mère. Et donc, du coup, ça, je trouvais ça magnifique. Sa mère a dit, mais tu te rappelles quand l'infirmière, elle est venue et elle t'a fait comme ça et tout. Ah, ça, il faut que tu le notes, tu le notes. Et ça, c'est trop...
C'est vrai, ils se sont mis à prendre des notes.
C'était un travail de famille, au final. Donc, en vrai, c'était... Ça, c'était, tu vois, c'est... Je trouve que, ouais, y a eu l'envie, quoi, qui est montée.
Ouais, exactement. Ouais. Ils ont pris des réflexes d'humoriste. Et... Ils ont écrit entre des séances, même sans nous. Ils ont pris leur petit calepin et ils ont noté des petites anecdotes et tout ça. Et, ouais. le mot là que tu as dit, Merwan, la confiance, je trouve que le stand-up, c'est aussi ça. Ils ont regagné confiance en eux, mais aussi en l'autre, dans le regard des autres aussi, parce que c'est se mettre à nu, faire ses premières blagues, on n'est pas sûr de nous, on apprend, donc on sait que bah, peut-être ça ne va pas passer. Ouais. Donc du coup, il faut faire confiance au groupe, et je pense que petit à petit... Ils ont de plus en plus confiance et ils osent un peu plus. Ok, là j'ai écrit quelque chose, je suis vraiment pas sûre, mais ils montent quand même et ils nous lâchent leurs vannes et tout ça. Donc ça, c'est clair que ça a évolué avec les ateliers, avec la confiance dans le groupe et puis en Merwan aussi, évidemment.
Et ils ont pas trop peur pour cette première scène ? Comment ils gèrent le stress là pour, parce que pour les adultes, c'est déjà compliqué, alors pour les jeunes, j'imagine.
Ouais, bah, je pense que y en a qui stressent plus que d'autres. J'ai passé quelques coups de fil et ils ont peur du blackout un peu, de plus se rappeler de leur texte.
Ah, oui.
Parce que ça, c'est un, je pense, pour les premières scènes, c'est le plus gros risque.
Ouais.
C'est l'oubli de son texte et de perdre ses mots.
De toute façon, moi, je dis toujours, la première scène, on oublie toujours notre texte.
Ouais,
moi, je l'ai oublié. À chaque fois que je fais des premières scènes,
tout le monde a un trou à un moment ou l'autre.
Le stress, il fait naturellement que tu oublies ton texte, même si tu l'as appris sur les doigts de la main. Quoi, c'est...
Ouais. Mais ça, on va leur souffler.
Oui.
Et je pense que ça va... Fin...
Et puis le public, tout le monde va applaudir, c'est ça.
Ouais, voilà.
Comme pour les gens qui débutent, les gens, souvent, ils sont bienveillants, ils applaudissent au moment
plus,
des trous.
Ça va l'être encore plus. On est en face d'enfants
ados,
entre 15 et 18. Je pense qu'il n'y a personne qui va leur envoyer des tomates, quoi.
Et s'il y en a qui les envoie, il ira vraiment en enfer, là. justement, dans l'émission que vous avez mise pour l'association Hub, j'ai bien révisé votre fiche, c'était faire reconnaître l'humour comme outil d'utilité publique. Qu'est-ce que ça changerait si on reconnaissait l'humour comme un outil d'utilité publique, dites-moi.
Déjà, je serais docteur.
10 ans d'études à la Timone.
Je ferais des ordonnances. bon, là, tu rigoles trois fois, parce que là, ça va pas.
Bah, ce serait plus un réflexe des gens qui ont des problèmes de santé mentale, de se tourner vers les solutions qui existent et qui sont à la portée de tous et qui sont utilisées, effectivement, l'humour comme une arme, en fait, pas seulement pour rire, mais aussi pour faire du bien, se faire du bien en riant, quoi. Donc je pense que ce serait ça, et puis ce serait aussi pour... je pense qu'il y a une autre idée pour nous avec le stand-up et tout ça, c'est aussi de le faire reconnaître comme un art du spectacle vivant à part entière. Ça, c'est aussi un des points importants.
Et pas comme le petit frère pauvre de la scène. Ah, oui.
Exactement.
Les gens du théâtre, vous nous entendez, respectez-nous, non ?
Voilà, les gens de la culture et tout ça, qu'en tout cas, ce ne soit pas comme le rap dans la musique, mais que voilà, on ait notre propre statut, notre propre case à cocher quand on coche pour X ou Y subvention publique, etc. Et l'humour, globalement, je pense que c'est comme la diététique, la nutrition, toutes ces choses-là.
Ça fait du bien pour la santé.
Ouais, voilà, c'est...
Et on y vient de toute façon avec tout ce qui est en train d'exister, le yoga du rire, tout ça. Donc en réalité, on y vient, c'est juste que ça met du temps, mais on finira par réussir à comprendre que l'humour, ça peut soigner.
Ouais, justement,
ça peut contribuer largement à la guérison. Quoi.
Mais est-ce que ça, vous voyez des changements dans les enfants au niveau, alors je ne sais pas, en termes de douleur, ce qu'ils vivent, hein, parce que j'imagine qu'il y a plein de parcours différents, mais est-ce que vous voyez une réaction différente à la douleur ou à la maladie avec le rire, hein, en tout cas quand ils rient ou quand ils sortent?
Nous, on n'est pas médecin et on ne les voit pas assez longtemps là-dessus et on ne va pas pouvoir se
on n'a pas mesuré ça encore.
On ne peut pas mesurer ce truc. Et on ne pourra jamais sûrement le mesurer aussi, parce que vraiment, c'est un truc très médical, etc. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue personnel, moi, quand j'étais malade, et jusqu'à aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'en réalité, 50% de la maladie, elle se passe dans ta tête. De savoir si tu te sens bien, si tu es positif, si tu rigoles, si tu es amusé, si... C'est pour ça que à l'hôpital il y a des clowns, c'est pour ça qu'à l'hôpital dans les trucs d'enfants malades il y a des pièces où c'est rempli de jeux, il y a la play, il y a où on peut jouer, où on peut s'amuser, où on peut s'évader de l'hôpital. C'est parce que 50% ça se passe réellement dans la tête. Et donc moi quand on m'avait dit ça, je me souviens, j'ai dit venez on fait que des blagues, venez on arrête les chimios et on fait plus de blagues. Mais en vérité, une combinaison des deux, c'est ça qui fonctionne, c'est le traitement plus aussi
le bien-être santé mentale.
Le sport, ça a été prouvé scientifiquement que ça a aidé à la guérison.
Et donc
le sport, ça aide au bien-être mental. En réalité, c'est ça.
Nous, on va prouver scientifiquement que l'humour aussi, ça a sa part.
Ouais, je sais pas si elle a des grandes ambitions.
Il faut des grandes ambitions, il faut de la vision. Merci Maya, c'est beau. Justement, vous avez pris comme slogan réparer, révéler et relier. Pourquoi ces trois R du coup?
Bien vu.
Ouais.
Parce que, réparer, c'est un peu tout ce qu'on a dit là, c'est sur l'image de soi, la résilience. La confiance, etc. Donc toute cette partie un peu qui a trait aux soins, mais qui n'en est pas vraiment. On n'a pas choisi soigner parce qu'on n'est pas des soignants. Et ensuite, révéler, c'est pour la créativité, parce que c'est avant tout des ateliers créatifs. On écrit ses blagues, on produit une œuvre artistique à la fin quand même, puisque le programme se termine par le fameux Comedy Club dont on parlait tout à l'heure et pour lequel on tease, mais on va vous donner toutes les infos. Et puis relier, parce que c'est vraiment ça qu'on fait, c'est de l'humain en fait. Les ateliers, c'est vraiment, on connecte avec les jeunes, ils connectent entre eux, ils vont connecter avec le public. Ça améliore clairement les relations humaines et le lien social. Ça, à notre petite échelle pendant un atelier, mais après, avec une plus grande échelle pendant un comedy club, et puis...
Après, sky is the limit.
Exactement.
Est-ce que, justement, en termes de vision, parce que vous l'avez noté, faire entrer l'humour là où il n'est pas, est-ce que vous l'avez, aujourd'hui, vous l'amenez donc au Château des Sourires, qui est un lieu spécial, un château où on accueille des enfants qui ont vécu la maladie ou qui sont malades. Est-ce que vous imaginez de l'amener dans d'autres endroits? Est-ce que vous imaginez, des maisons de retraite ou autre, ou en tout cas faire entrer l'humour à des endroits improbables?
C'est l'idée, évidemment. Pour le moment, on a ciblé un peu les jeunes.
Du parcours de Merwan, ça fait sens.
Et parce qu'on a aussi beaucoup aimé cette première expérience qui est venue un peu spontanément par l'histoire de Merwan. Parce que, du coup, Merwan, peut-être tu te dis sur Sourire.
Pourquoi on a choisi aussi Sourire à la vie pour faire cette première, j'ai pas le mot.
Programme.
Premier programme, etc. C'est parce que moi j'ai fait partie de l'association Sourire à la vie où je suis parti. Il y avait un lien. Je connais très bien le patron, on va dire, de Sourire à la vie, le directeur, et je suis parti au Canada avec eux, j'ai fait le tour de la Corse en catamaran avec eux, j'ai fait plein d'activités avec eux.
Mais ça donne envie d'être malade, ça a l'air.
Pendant la maladie,
le cancer, c'est très génial. et donc du coup, moi j'ai fait tout ça avec eux, avec Sourire à la vie, donc du coup, en vérité, je me suis tourné vers eux parce que ça s'est fait naturellement et que je connaissais et que j'avais envie de rendre aussi ce qu'on m'avait donné. Et aussi, on fait le deuxième programme aussi avec Val Prévert. Val Prévert, c'est des enfants qui sont
qui ont des troubles, des conduites alimentaires.
Ah oui.
Et c'est une structure en fait d'accueil en semaine en fait. Toute la semaine, ils sont sur place et le week-end, c'est comme un internat en fait, mais spécifique où ils sont encadrés par toute une équipe pédagogique et médicale.
Par exemple, pour l'anorexie, la boulimie, ce genre
Exactement.
De.
Exactement.
Voilà. Okay. Le diabète.
Ah ok, le diabète aussi.
Le diabète aussi. Ouais. Donc, ça c'est en gros, c'est le docteur qui me suivait à la Chimone, Madame Galambrin. Elle me suivait à la Chimone et c'est elle qui m'a suivi pendant toute ma maladie jusqu'à la fin. Et elle est partie à Valprévert et on s'est contacté sur les réseaux sociaux et elle a vu ce que je faisais et elle m'a dit ça serait trop bien que tu viennes voir les jeunes. Et donc du coup moi j'ai revu le docteur qui m'a suivi depuis le début. Elle veut que je l'appelle Claire mais je n'arrive pas, je l'appelle que docteur Galambrin. Il y a quand même un aspect très
les premiers à bénéficier là de l'asso, c'était un petit peu le cercle médical que Merwan connaissait, mais il est amené à être élargi. Et surtout, moi, je le vois aussi avec un impact aussi social sur des jeunes qui ont moins accès à la culture, moins accès à des opportunités comme celle-ci, qui sont un peu de côté, on va dire, plein de raisons différentes.
Il ne faut pas oublier que l'association s'appelle Humour d'utilité publique. Donc, du coup, ça ne nous enferme pas du tout dans la santé, ça ne nous enferme pas du tout dans un... On n'est pas cloisonné, c'est humour d'utilité publique, donc du coup nous, on va aller chercher partout et on va essayer d'amener l'humour de partout quoi.
Écoutez, on a hâte de vous voir amener partout l'humour, peut-être même dans les assurances et dans les banques, sait-on jamais, s'ils nous entendent. Je voulais savoir justement ce premier Comedy Club, parce que c'est l'événement à ne pas manquer pour l'association UP, donc venir voir le Comedy Club, donc le résultat de ce premier parcours de formation avec les jeunes donc, du château Sourire à la vie, c'est bien ça ?
Ouais.
Voilà. Donc où ça se déroule, comment on fait pour y aller ?
Alors, il y a deux soirées, du coup. La première, c'est celle des enfants de Sourire à la vie, qui a lieu le 31 janvier. C'est pas tout à fait en soirée, c'est à 17h.
Très bien, parce que c'est les jeunes, donc il faut
qu'ils
se
bougent tôt. Voilà, exactement. Et c'est au Vigs, donc le lieu sur le Vieux-Port, qui nous accueille et qu'on remercie chaleureusement. Donc ça, c'est pour le 31 janvier à 17h.
Super.
Et on a une deuxième date, le 4 février, donc quelques jours après, à 16h cette fois. Donc c'est un mercredi, donc c'est vraiment...
Super.
Pas pour tout le monde, quoi, parce que je sais qu'il y en a qui vont travailler. Et ça, c'est avec les jeunes de Valprévert, du coup, à la Grange Comedy Club, qu'on remercie aussi, qui est le lieu du Garage Comedy Club.
La petite sœur du Garage
Comedy Club. Exactement, et qui nous accueille pour l'occasion. Et j'en profite aussi pour remercier tous les humoristes bénévoles qui vont nous accompagner, parce qu'ils vont venir faire des blagues entre les passages des jeunes. Et qui ont aussi donné des cours. Il y en a pour certains qui ont donné des
Ashraf,
cours.
Ashraf, Ryan,
Eddie, Marion,
Julien,
et Bédou,
Julien
et Julien
Vienne.
On les salue et on les remercie, puisque c'est important de faire vivre justement ce paysage culturel marseillais et surtout ces jeunes, ces peut-être grands futurs stand-uppers, hein, puisque qui sait, peut-être que.
Mais oui, pour moi, c'est des élèves humoristes, je les appelle comme ça.
Ouais. Et oui, peut-être que certains vont arrêter les études pour faire de l'humour.
On est désolé auprès des parents.
Il y en a que.
On a perdu des médecins et des avocats, mais on a gagné des humoristes.
Je suis pas sûr qu'on ait gagné au change. On est d'utilité publique, il ne faut pas oublier.
Si on le devient, finalement, ça se vaut.
Bah, en tout cas, Maya, Merwan, c'était un plaisir de nous accueillir dans les studios. On retrouve, j'imagine, l'association UP sur tous les réseaux, donc UP, H-U-P.
C'est asso-up sur Instagram.
Sur Instagram.
Et il y a tous les liens pour réserver la billetterie et pour nous suivre et pour suivre un peu nos actus.
Et vous contacter si des projets peuvent germer partout sur le territoire, parce
avec
qu'on le rappelle,
plaisir.
On est en régional, donc on espère que ça vous fera des petits sur toute la région. Et on vous souhaite à tous les deux un beau parcours et une
Merci
belle et bienvenue à l'association UP qui vient de naître.
Merci.
Merci Yacine, merci beaucoup à tous.